Binge Audio.
Mes chers amis, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça de plus en plus difficile de ne pas devenir folle. Je trouve ça de plus en plus difficile de vivre dans un monde qui nous rend complices de ces atrocités, d'en avoir conscience, de tenter parfois d'étouffer cette conscience, et de vivre finalement dans une dissonance cognitive plus ou moins constante. Hier, le Parlement a voté pour la première fois la reconnaissance du génocide ouïghour en cours en Chine. Les Ouïghours, c'est une minorité musulmane, enfermée dans des camps de travail qui fournit les matières premières pour un bon nombre de vêtements que nous portons sur nous et de matériel informatique que nous utilisons. Ce vote est une avancée. Mais l'industrie de la mode cache bien d'autres réalités. Même quand ils sont payés, les travailleurs textiles de l'ultra-fast fashion le sont à peine. Ils travaillent dans des conditions qui ne leur permettent pas de vivre dignement, voire qui les tuent. On pourrait croire qu'en achetant plus cher, on achèterait des produits de qualité qui ne cautionneraient pas indirectement ces pratiques. En réalité, même dans ce cas, d'autres problèmes se posent. Des problèmes d'une autre nature, précisons-le, mais ils se posent quand même. Récemment, la vidéo d'un shooting photo organisé à Waraka par la marque Cézanne a fait polémique. On y voit des photographes français prendre en photo une femme indigène assise sur une chaise devant de grands tissus, elle-même habillée d'un gilet Cézanne. La créatrice est depuis excusée. Soit. Mais a-t-elle annoncé qu'elle rémunérerait son modèle à un juste salaire? Pas que je sache. Appropriation culturelle, exploitation, pollution, esclavage... L'industrie de la mode est-elle l'enfer sur Terre? Et que peut-on faire? Peut-on faire quelque chose? L'industrie de la mode est très intéressante parce qu'elle nous met aussi face à un des paradoxes de notre époque. On sait, et puis on oublie. On s'offusque, et puis on achète. Elle pose la question de l'utilité du savoir. Le temps où la littérature et les films présentaient une réalité que personne ne connaissait est presque totalement dépassé, écrit Édouard Louis dans « Conversations sur l'art et la politique ». Zola écrivait pour montrer la vie dans les usines ou dans les mines. Sartre pour rendre visibles les prostituées et les homosexuels. Maintenant, avec les nouveaux médias, tout ou presque est visible. Si tout le monde a accès au réel, si tout le monde sait à peu près qu'il existe de la violence, comment faire pour que les gens s'y confrontent et que naisse en eux la volonté de changer cela? La question n'est plus de montrer, mais de confronter, écrit encore Édouard Louis. Alors confronter, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Se confronter à l'industrie de la mode et se confronter à nous-mêmes. Tenter de savoir pourquoi on a tant le sentiment de devoir consommer pour exister.
Laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça?
On peut plus rien dire.
Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons si nous devrions brûler nos habits et toute l'industrie de la mode avec. Et surtout, comment faire pour ne pas ajouter au malheur du monde tout en ayant quand même un certain style. Avec moi pour répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Audrey Millet. Audrey Millet, vous êtes docteur en histoire, vous êtes membre du collectif Fashion Révolution France et vous êtes l'autrice du Livre noir de la mode, paru en mars 2021. Julia Faure, vous êtes créatrice de mode et vous aspirez à faire les choses autrement avec votre marque de vêtements Loom. Vous êtes membre de En mode climat, un lobby textile qui se bat pour le respect de l'accord de Paris. Et Mélodie Thomas, vous êtes journaliste pour Marie Claire où vous décryptez la mode d'un point de vue sociétal et enseignante de Fashion Criticism. Première question, je me penche vers vous peut-être, Audrey Millet. Que nous révèle selon vous cette affaire Cézanne dont on a parlé récemment?
L'affaire Cézanne, en réalité, révèle le fond d'une industrie qui est de plus en plus pourrie, qui est bercée dans le plagiat et qui a mauvaise réputation pour de très bonnes raisons. C'est pas la première affaire d'appropriation culturelle. On pense notamment, alors il y avait eu Jean-Paul Gaultier qui avait repris des vêtements des Samis en 94. On avait
les Samis, pardon, je sais pas.
Les Inuits.
D'accord.
Voilà. On avait donc Karl Lagerfeld en 94 qui avait repris des versets du Coran. Également Isabelle Marant qui avait repris des motifs mexicains. Aussi. En fait, l'appropriation culturelle, c'est la copie d'une autre culture à qui on ne rend rien. En fait, c'est du vol. Mais c'est du vol qui est en réalité extrêmement classique, puisque une grande part de l'industrie de la mode est fondée sur le plagiat.
Comment on peut savoir où s'arrête, par exemple, l'échange d'influence, l'inspiration, et où commence l'appropriation culturelle, Mélodie Thomas ?
C'est une question, je pense que c'est un peu le fond du problème. Mais en réalité, une des mentions qu'on oublie souvent dans la question d'appropriation culturelle, c'est justement est-ce que le créateur cite la source et rémunère les personnes issues de cette tradition culturelle à leur juste valeur. Et je pense que ça a été toute la problématique qui s'est notamment présentée au sein de Cézanne, c'est que contrairement à bien des designers, la marque a réalisé le shooting au sein de la culture dont elle s'était inspirée. Elle a utilisé des personnes au sein de cette culture, mais ce qui a véritablement posé problème, c'est que il a été fait mention que la femme aurait été rémunérée seulement $10
ouais.
Pour sa présence lors du shooting. Et ça montre bien, là, quelque part, une forme de dévalorisation d'une culture à laquelle, pourtant, la marque prétend vouloir rendre hommage. Donc, je pense que c'est vraiment cette dissonance-là qui a créé la polémique qui est venue sur les réseaux sociaux, mais surtout qui est vraiment venue aussi, et ça, faut bien le préciser, c'est vraiment venu, en fait, de personnes issues d'Amérique latine et même du Mexique en elle-même qui ont vraiment pris la parole et dit « Maintenant, ça suffit. À chaque fois que vous venez au Mexique, c'est pour vraiment nous voler nos cultures et jamais vous ne réussissez à les valoriser quelque part. » Donc, c'est vraiment toute, je pense, la problématique qu'on trouve dans la
Moi, je pense que, peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas si j'aurais été aussi choquée par cette vidéo si j'avais su que, par exemple, ce modèle, elle avait eu un contrat et elle avait été rémunérée comme une mannequin en Occident. Après, il y a encore la thématique de... Mais qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Millet ?
Alors, Cézanne a dit on n'a pas rémunéré $10 la
D'accord.
personne. On l'a rencontrée la veille de manière tout à fait naturelle.
Oui, c'est
dans
ce qu'ils disent,
rues.
Que c'est une rencontre comme ça, impromptue. Mais même si on rencontre un mannequin de manière impromptue, on
a déjeuné
paye.
Ensemble ouais. Et apparemment, Cézanne a expliqué que c'était pas du tout pour un shooting photo et que c'était en fait juste pour le cahier de tendance de la créatrice. À un moment, la mauvaise foi.
Oui, hein, c'est
faut
ça.
Peut-être
même si c'est pour le cahier de tendance, on peut pas rémunérer les gens.
Dans la vidéo,
c'est dingue,
on entend « changez-lui les chaussures ».
Ouais.
Mauvaise foi. Et on rémunère les gens. On ne va pas, dans un pays qui est en voie de développement, hein, parce que le Mexique, ce n'est pas la fête non plus, même rémunérer des gens $10.
Oui, ça
à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. On parle de salaire vital, de salaire minimum. On utilise l'image de quelqu'un et on utilise l'image d'une culture. Mélodie le disait, au Mexique, il y a de grosses associations qui se sont fondées parce qu'ils se font piller tous les jours. Et là, on pille des gens, on pille des images, on pille des corps.
Est-ce qu'il y a une fascination un petit peu dans l'industrie de la mode pour la misère, tout simplement, pour la pauvreté ou pour qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce que ça me fait penser au basket Lidl.
C'est vrai. Quelque part, non, Mélodie Thomas ?
Je pense qu'il faut différencier plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas être essentialiste dans la vision du Mexique. Bien sûr que c'est un pays, comme on l'a dit, qu'on considère comme étant en voie de développement, parce qu'il appartient à ce qu'on appelle le Sud global. Malgré tout, ça reste une culture qui est très, très riche d'un point de vue, en tout cas, si on se base simplement sur la question de l'habillement textile, je ne me permettrai pas de m'étendre sur des industries que je ne connais pas. Mais si on se base simplement sur l'industrie textile, le Mexique a une grande histoire avec son utilisation du coton, avec son utilisation des motifs, des broderies, etc. Donc pour moi, c'est pas forcément que la mode a une appétence pour la misère. Mm-hmm. C'est plutôt, je pense, que la mode vient en tant qu'industrie conquérante née dans les pays du Nord global. Et je pense qu'elle n'a pas encore saisi qu'aujourd'hui, on vivait à une époque où on peut pas juste aller dans un endroit qui est qui est déconsidérée, en tout cas d'un point de vue dont on a construit l'histoire dans nos pays, pour simplement prendre ce qui nous intéresse et revenir chez nous et le retransformer pour des gens, pour une question de folklore. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui est le nœud du problème aujourd'hui. Donc je pense pas que ça soit une question de le Mexique est un pays misérable ou de miséreux et on vient se servir. C'est plutôt que inconsciemment, on a encore, je pense, une forme de comportement néocolonial quand on va dans des pays comme en Amérique latine, en Amérique du Sud, comme on le fait également en Asie, comme on le fait en Afrique, en fait comme on le fait dans la majorité des pays du Sud global.
Tout à fait. Julia Faure, vous qui êtes du métier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment on design ces collections, comment on cherche son inspiration, comment ça se passe la conception d'un vêtement, dans sa tête?
Alors vraiment, bon, je pense qu'il faut que vous regardiez le site internet de ma marque parce que globalement, on fait des t-shirts blancs et des pantalons bleus.
Même.
Ce qui est vraiment la meilleure protection possible contre la tentation d'appropriation culturelle ou de vol, quoi. Enfin, on fait vraiment du basique de bonne qualité. Donc, je dois vous avouer que peut-être que je suis un peu usurpatrice d'être ici, mais je ne suis pas une créatrice de mode. Enfin, donc il y a quelqu'un dans notre équipe qui est styliste et qui a un meilleur goût que nous et qui sait choisir des couleurs et adapter les coupes, etc. Mais nous, on ne marche pas du tout. On ne fait pas de collection, en fait. On a une collection permanente et on essaye, voilà, on essaye globalement de faire du Uniqlo éthique. Enfin, si on devait résumer ça. Donc il y a globalement tout un process de création qui n'est pas...
Oui, c'est du basique.
On fait pas Cézanne, etc. Donc on n'est pas du tout confronté à ces problématiques-là, ce qui est très confortable.
Oui, allez-y, Mélodie Thomas.
Je trouve que c'est hyper intéressant ce que vient de dire Julia, parce que ça parle d'un problème qui est très profond. Je pense que la raison de l'appropriation culturelle s'explique aussi, parce que la mode, la manière dont on pense la mode, en tout cas en Occident, ça se base sur la réinvention, le renouvellement perpétuel. Et par conséquent, puisqu'il faut toujours trouver de nouvelles tendances pour acquérir de nouveaux acheteurs, puisqu'il faut toujours trouver de nouvelles manières de séduire, eh bien forcément, on peut pas juste se baser sur ce qu'on a déjà. On est obligé d'aller grappiller de l'information ailleurs. Donc je pense qu'on est beaucoup plus tenté quand on est un designer qui doit proposer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 collections par an que quand on est effectivement quelqu'un qui se dit non, nous on veut rester sur des vêtements très basiques que les gens vont pouvoir incorporer à leur garde-robe et donc on veut juste un bon t-shirt blanc, un bon jean, un bon pull, etc., etc. Donc c'est aussi une manière de penser la mode qui est différente, mais qui explique, je pense,
cette question. Très intéressant ce que vous dites. Ça me fait penser à ce que vous expliquez dans votre livre, Audrey Millet, c'est ce concept d'économie du désir permanent, non? C'est ça?
Tous les lundis, voilà, absolument, il y a une nouvelle tendance. Donc, quelque chose qu'il faut...
Tous les lundis, voilà. Vraiment?
Oui, tous les lundis. C'est cette jupe qu'il faut avoir. Donc ça, c'est assez problématique, parce que déjà, on exploite aussi les designers. Enfin, quelqu'un qui est tranquille, qui a son book, qui va regarder des tableaux, des tissus, s'inspirer de culture, coopérer. Mmh. Par exemple, avec le Mexique, avec les designers mexicains, c'est tout à fait possible. Il y a des licences pour les motifs. La coopération d'égal à égal. C'est comme
sûr,
ça qu'il faut
ça.
Le faire. Mais le goût de l'exotisme, le goût du changement, le goût du folklore, comme le disait Mélodie, alors cet exotisme qui excite les pays occidentaux, c'est quand même... On va loin, le Mexique est un pays magnifique, on peut faire des shootings sublimes, en plus c'est sans doute moins cher que d'autres îles sublimes. Donc à un moment, il faut juste coopérer. Il y a des designers, il y a des motifs, il y a des licences, il y a des associations au Mexique. Une coopération d'égal à égal, parce que Mélodie le disait, il y a ce problème de la source. Alors, dans un livre, une note de bas de page... Voilà, vous faites insertion de bas de page. En musique et en mode, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut que ce soit assumé et dit, nous avons coopéré ensemble, d'égal à égal. Ça inclut une rémunération correcte également.
Pour revenir un peu sur le circuit de fabrication du vêtement, s'intéresser un peu à toutes ces étapes. Donc, il y a la question de la conception, la question de l'invention, la question de l'appropriation ou de la coopération. On a bien entendu vos arguments. Je me demande après, comment sont fabriqués aujourd'hui les vêtements? On dit que l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes, même aussi polluante que l'aviation. Est-ce que c'est la production qui est extrêmement polluante? Julia Faure,
je peux peut-être répondre.
Allez-y.
En fait, la question de la, enfin, à cette table, on sait que le mot de industrie de la mode deuxième plus polluante au monde, en fait, c'est un fait qui a été débunké il y a quelques années, mais ça reste. On pourrait croire.
Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est la deuxième industrie plus polluante.
Dire. En fait, polluant, ça veut rien dire dans le sens, il y a la pollution des sols avec les rejets chimiques, il y a la destruction de la biodiversité, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique, et c'est normal qu'on ait tous envie de reprendre ce terme-là parce qu'il est simple. Mais le problème des phrases choc et simple, c'est que bien souvent, elles ne disent pas la nuance de ce qu'il y a derrière.
C'est bien vrai.
Je laisserai Audrey Millet détailler les autres aspects polluants de la mode. Mais mon expertise, ça serait plutôt sur les émissions de gaz à effet de serre. On sait que la mode, c'est entre 2 et 8% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et que c'est le volume global d'émissions de gaz à effet de serre n'est pas en train de diminuer, au contraire, quoi. Alors que si on reprend qu'est-ce que devraient être les engagements des industries pour qu'on atteigne les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire rester sous les 1,5 degrés, enfin maintenant c'est foutu, mais rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, il faudrait que d'ici à 2050, la mode divise par 3 ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on n'est pas sur la bonne voie. Donc la mode réchauffe le climat. Et la mode n'est pas sur le chemin de réduire son impact sur le climat.
Audrey Millet ?
Alors, on a plusieurs types de pollution. Pollution environnementale, hein. On a la pollution des sols, bien entendu, avec les pesticides. Mais on a un autre type de pollution, c'est la pollution des corps. Parce que ces sols pollués, le petit Bengladi ou les gens du Pendjab, ils boivent cette eau. Donc, on a un enfant qui, à 3 ans, et c'est véridique, hein, a un cancer, doit avoir un nouveau rein, doit avoir une greffe de rein. Bon, mais évidemment, au Pendjab, hein, il n'y a pas de sécurité sociale. On a des vendeuses qui, à force de toucher des produits qui sont toxiques, cancérigènes et mutagènes, ne peuvent plus avoir d'enfants. On a un accroissement de la fertilité. Donc ça, c'est les coûts humains, je ne vous les ai pas tous dit. Mm-hmm. Puis on a aussi, en fait, une pollution intellectuelle. Puisque l'Occident est avachi sur son canapé, à consommer, et à chercher une paire de sneakers.
Oui.
Ah, mais on aime les vêtements.
Ah bah on adore les vêtements, mais on va en parler. Bah c'est vrai que c'est s'habiller, c'est un plaisir. C'est exprimer son identité à travers les habits, c'est quand même... c'est une des grandes joies de la vie, non ? C'est terrible que du coup, ce soit si corrompu comme univers, non, Mélodie Thomas ?
En fait, je pense que le problème, c'est qu'on dit aujourd'hui qu'on aime le vêtement, mais moi, je suis pas vraiment sûre qu'on aime le vêtement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on aime l'idée qui est renvoyée par les vêtements. Mais quand on regarde, quand on parle de la question des tendances, et surtout les tendances qui s'accumulent, aujourd'hui, on avait une présence de tendance. On se disait, aujourd'hui, c'est le mouvement punk. Donc, pendant 5, 6 ans, 10 ans, on a une tendance comme ça qui traverse une époque. Aujourd'hui, quand on regarde, il peut y avoir 15 tendances, 20 tendances dans le même mois. Donc, en fait, ça révèle aussi que, d'un côté, on peut dire on a le plus le choix. Ce qui pourrait être vu comme positif. On est dans une société démocratique. Chacun peut enfin choisir des vêtements en fonction de ce qu'il aime, etc. Le problème, c'est, à mon sens, il y a aussi une uniformisation de la manière dont on s'habille. Parce que...
Ah oui, paradoxalement.
Paradoxalement, oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a aussi envie de s'habiller d'une manière qui est reconnue. Enfin, on a toujours eu envie de s'habiller d'une manière qui est reconnue par ses pairs. C'est juste qu'aujourd'hui, on l'a divisé en plein de sous-groupes. Et puis, c'est Orsola De Castro, qui est la cofondatrice de Fashion Revolution tout court, qui a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Loved Clothes Last. Et elle parle de... quelque chose qui pour moi est vraiment est véridique, c'est-à-dire que si on aimait vraiment nos vêtements, on en prendrait soin. Et aujourd'hui, on a totalement perdu cette appétence de j'aime beaucoup ce pull, comment est-ce que je fais pour le réparer, comment je le reprise, comment plutôt que de juste acheter quelque chose d'autre, je peux déjà regarder ce que j'ai chez moi et changer la fermeture éclair, changer le bouton, juste peut-être faire un ourlet, reprendre une chose qui a besoin d'être prise. Et ça, on ne le fait plus. Donc, on aime le vêtement dans l'idée. Mais dans les faits, et on l'a vu ces derniers mois, on parlait de pollution tout à l'heure, la pollution textile aujourd'hui est un véritable problème. Et nous, on ne le ressent pas parce qu'en fait, on l'exporte ailleurs. On l'exporte en Amérique du Sud, comme on a pu voir au Chili. On l'exporte énormément en Afrique également. Moi, j'ai fait un papier pour le Marie Claire qui s'appelle « Où vont nos vêtements lorsqu'on les donne ?» Et il y a cette association... qui s'appelle Dead Man Clothing, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi. Dead White Man's Clothes, exactement, qui a été faite par des Américains qui vivent maintenant au Ghana. Et en fait, ils expliquent à quel point ça touche véritablement un écosystème social, pas simplement juste le fait qu'on retrouve des vêtements à la fois dans les décharges textiles, à la fois dans les océans, qui laissent bien sûr des billes de plastique partout, qu'on nous, enfin, on va finir aussi par se retrouver avec, hein, l'océan. Ça marche de cette manière, mais aussi on perpétue aussi l'exploitation de femmes qui sont payées une misère aujourd'hui pour aller porter des ballots qu'elles vont aller chercher à la sortie des ports pour ensuite les porter sur les marchés, se brisent la nuque. Enfin, il y a en vrai un véritable problème qu'on ne se pose pas parce qu'on ne l'a pas sous les yeux. Donc voilà.
Julia Faure.
Je voudrais, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mélodie, je voudrais apporter des chiffres. La preuve qu'on n'aime pas nos vêtements, c'est que sur le marché, chaque année en France, il y a 2,5 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché. Ça fait environ 50 fringues par personne. Enfin, en fait, on consomme autant de vêtements que de boîtes de 6 œufs. 6 œufs ? Voilà. Et sur ces 2,5 milliards, il y en a, donc chaque année dans les bornes de collègues, vous savez, de textiles, c'est 1 milliard de fringues qui sont collectées. La moitié sont envoyées à l'étranger, donc bien sûr dans des pays comme le Ghana. Voilà. Et pour vous donner une idée, le Ghana reçoit par semaine 15 millions de vêtements. La population du Ghana, c'est 30 millions. Et c'est vraiment des choses qu'on envoie pour... Il y a une image dans le documentaire de France 5 sur le front « Que deviennent nos vêtements ?» où il y a une dame qui dit « Bah oui, ils vont pas rester tout nus là-bas, donc on leur envoie nos vêtements. » Et donc vraiment, ce qu'on envoie, c'est des quantités tellement astronomiques pour le marché intérieur que ça déborde, quoi.
Ce que je trouve intéressant, ça me fait penser, je vous donne tout de suite la parole, Mélodie, je vois que vous vous agitez, ça me fait penser à un concept que vous développez dans votre livre, Audrey Mieux, enfin pas un concept, un fait. Vous expliquez que depuis 20 ans, le prix de tout a augmenté. La culture, les soins, les voyages, absolument tout, sauf le prix du vêtement qui a baissé. Et ça lui confère, vous écrivez, une place de fétiche dans nos vies. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans cet univers, dans cette société capitaliste, le message qu'on nous martèle depuis qu'on est enfant, c'est avoir des objets, consommer, ça veut dire réussir sa vie, ça veut dire être une bonne personne, ça veut dire même être digne. Et j'ai l'impression que le vêtement, même la fast fashion, c'est finalement la dernière chose qui nous reste pour accéder à ce statut, réussir sa vie d'un point de vue capitaliste. C'est pour ça que c'est si dur aussi de... C'est pour ça qu'on consomme autant. Non, vous croyez pas ?
Alors, le vêtement, en fait, nous permet de, vous savez, rester juste au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que si vous pouvez acheter encore un vêtement, parce qu'un livre, ça vaut plus cher, un livre, en fait, c'est 4 t-shirts.
Mais oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Quand on a des périodes dures dans la vie ou des galères de tout, ouais, quand on s'achète une petite fringue, on se sent une meilleure personne, presque. Voilà. C'est horrible, mais c'est vrai.
Mais ça, on reste juste au-dessus de l'eau. Le jour où on ne pourra plus acheter ces vêtements très, très peu chers, ce jour-là, on acceptera enfin qu'il y a une crise économique et sociale, qui en réalité est là depuis les années 80, et l'affirmation du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est ce qui nous donne la liberté de choix, la liberté. Donc tout ça, c'est basé sur la liberté. Vous avez la liberté de choix, vous pouvez choisir un vêtement plus cher, un vêtement moins cher, un vêtement encore moins cher. Mais en fait, c'est un mensonge. C'est qu'actuellement, on ne devrait pas se réjouir de pouvoir s'acheter un vêtement à 5 euros. On ne devrait pas se réjouir.
Mélodie Thomas.
Moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait Julia. Elle parlait d'un documentaire qu'elle a vu et la personne disait...
Sur France 5, c'est ça, sur les expéditions de vêtements.
Voilà, et la personne disait, au moins les gens ne seront pas tout nus, etc. Il faut aussi comprendre que cette histoire de la seconde main qu'on envoie bénévolement dans des pieds, etc., elle repose quand même beaucoup sur du racisme, au final. Elle repose sur toute cette propagande qui a été faite, notamment dans les années 90. Enfin, moi, je me souviens, en tout cas déjà quand on était à l'école et tout, l'Afrique était vraiment présentée, déjà c'était même pas présenté comme un continent, mais c'était vraiment présenté limite comme un pays où se passaient toutes les misères possibles et imaginables du monde. Ce qui fait qu'il y a encore pour plein de personnes cette idée de quand je vais à la benne porter mes vêtements et que je sais qu'ils vont être portés par des petits Africains qui n'ont rien, je fais donc une bonne action, je suis donc une bonne personne. Donc peut-être que j'achète et que je surconsomme, mais je le pallie avec cette idée selon laquelle j'aide une personne plus défavorisée à l'autre bout du monde. Alors, si on vivait dans un monde parfait, ça serait une très très bonne action, etc. Malheureusement, c'est oublier que, déjà comme je disais, l'Afrique c'est 54 pays, c'est pas un pays tout seul. Et en plus de ça, tous les pays africains ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques, et il y a des pays africains qui se portent très très bien économiquement, etc. Donc cette idée du petit Africain qu'on vient sauver, c'est devenu aussi un peu notre argument, notre justification de pourquoi on achète des vêtements. Et pour boucler avec ce que disait aussi Audrey, quand on parle de la question des tendances, quand on parle de la question de l'achat, aujourd'hui, on voit bien aussi qu'il y a beaucoup, en tout cas dans les jeunes générations, de personnes qui achètent des vêtements, qui vont les porter sur les réseaux sociaux et puis qui vont les retourner. Parce que les marques ont aussi favorisé cette idée de retour gratuit. Donc, venez acheter chez nous un truc à 3, 4, 5, 6 euros, 10 euros maximum. Vous allez le porter quelques temps, parce qu'en réalité, les gens, ce qu'ils se rendent compte quand ils reçoivent ce vêtement, ce n'est pas vraiment des vêtements qu'on porte dans la rue. C'est des vêtements presque en papier. Donc, ça rend très, très bien sur l'image, sur Instagram, parce qu'il y a des couleurs et que c'est cool et on fait une belle photo. Mais en réalité, on ne peut pas sortir comme ça dans la rue. Donc, on le renvoie à l'envoyeur. Et donc, que fait la marque de tous ces stocks?
Elle les expédie aussi au Ghana?
Non, je pense que la marque, ouais. Les brûlés, par exemple.
Les brûlés, ah oui.
Moi, si je peux.
Allez-y, Julia Faure.
Les taux de retour, je pense que. Moi, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres marques, mais je sais que voilà, les marques françaises et tout, moi, si vous achetez sur mon site et que vous en renvoyez, ça va dans mon entrepôt et on le replie. Si c'est sale, on le relave et on le remet en vente. Faut vraiment avoir les moyens pour se débarrasser des choses qui ont un taux de retour. Alors, il faut vraiment que les vêtements que vous achetiez n'aient aucune valeur. Et ça, en fait, si effectivement vous achetez des t-shirts à 2 euros et vous les renvoyez, c'est plus cher de les laver et de les reconditionner que de les brûler, en fait. Donc c'est pas systématique, hein, ne croyez pas que toutes les marques brûlent tout et tout, qu'on est là, ouais, fuck it.
Non, mais on a des bons élèves, heureusement.
Je suis obligée de vous couper la parole parce que la révolution éco-féministe n'a pas encore eu lieu, donc on va avoir une toute petite pub, on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander s'il faut cancel toute l'industrie de la mode. À mes côtés, l'autrice Audrey Millet, la créatrice de mode Julia Faure et la journaliste et enseignante Mélodie Thomas. J'aimerais qu'on revienne sur donc cet événement qui a eu lieu hier au Parlement, la reconnaissance du génocide des Ouïghours et leur implication dans la fabrication de nos vêtements. Ce que dénoncent beaucoup de personnalités politiques ou engagées, c'est que aujourd'hui, les grandes marques ne produisent plus rien elles-mêmes. Toutes les marques ne produisent quasiment plus rien elles-mêmes. Elles sous-traitent. Et donc, elles ne sont pas considérées comme responsables de ce qui se passe chez leurs sous-traitants. C'est comme ça que des marques comme Zara, Nike, Claudie Perlot, Maje, et la liste est encore longue, se retrouvent accusées de bénéficier, finalement, du travail forcé des Ouïghours. Comment faire? Est-ce que quelque chose est possible à faire pour... Déjà, pour qu'on sache, en fait, est-ce que les vêtements qu'on achète, ils ont été fabriqués par des esclaves? Et pour qu'on arrête, en fait, de les importer, de les vendre, ces habits, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est le rôle des marques? Est-ce que c'est le rôle des politiques? Julia Faure, qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein, le génocide ouïghour en cours et l'implication de l'industrie textile dans l'exploitation de populations, ce n'est pas neuf. Enfin, l'industrie textile s'est construite là-dessus. Les premiers scandales, c'était quand même les gamins qui cousaient les ballons de foot Nike.
C'est vrai.
Il n'y a pas un truc où Nike a relocalisé sa production pour aller dans des pays qui protègent efficacement les gens et l'environnement. Enfin, et il y a eu Nike, et il y a eu le Rana Plaza, et maintenant il y a les Ouïghours, et il y en aura d'autres. Il y en a toujours eu. Et pendant qu'on considère qu'on se focus sur les Ouïghours, ce qui est nécessaire, parce que c'est vrai que c'est un génocide qui est en cours, et que c'est honteux qu'il y ait des trucs qui soient issus de l'esclavage, qui soient vendus sur le marché français, qui viennent faire de la concurrence aux produits qui sont faits par les industriels français, entre parenthèses, c'est honteux. Mais à côté de ça, les produits que vous achetez chez Decathlon, les produits que vous achetez chez Zara, etc., ils sont faits au Bangladesh. Les personnes qui cousent ces vêtements sont payées 100 $ par mois, ce qui est en dessous du salaire vital. Le salaire vital, ça devrait être 300 $. Donc, on peut s'indigner de ces ânes qui ne payent pas correctement ce modèle, etc. Mais c'est rien du tout par rapport à comment l'exploitation est la norme et le socle sur lequel se base l'industrie textile. Donc, comment on fait? Enfin, il y a un vrai... En fait, jusqu'en 2005, il y avait un truc qui s'appelait les accords multifibres. Les accords multifibres, ça disait que On ne pouvait pas importer plus de tant de fringues de tel pays tant que les conditions sociales et environnementales de ce pays ne s'étaient pas améliorées. On a fait sauter ces accords-là. Donc c'est quelque chose qui régulait globalement l'importation de produits asiatiques, de produits en Asie, en France. À partir du moment où on a fait sauter ces accords-là, ben, bien sûr, ça a détruit l'industrie textile française, en tout cas les restes qu'il y avait, et on est devenu en fait dépendant d'un marché qui est basé uniquement sur l'exploitation. Et il ne faut pas se leurrer. Les fringues, le pourcentage de fringues qui est produit en Europe, qui est vendu sur le marché français, mais c'est ridicule. C'est 90% de ce qu'on consomme, c'est produit en Asie. Donc 90% de ce qu'on consomme en fringues, c'est le produit de l'exploitation de gens. Donc,
en fait, la fast fashion repose sur un système d'exploitation et d'esclavage. Elle n'existerait pas s'il n'y avait pas ces esclaves. Allez-y, Mélodie Thomas.
Non, je voulais juste revenir sur ce que venait de dire de Julia et ce que vous venez de dire aussi. Effectivement, oui, la mode a toujours reposé sur l'exploitation.
D'ailleurs, c'est comme ça, au XVIIe siècle, ça a commencé avec les esclaves aux États-Unis, non, avec les champs de marins.
Exactement, oui. ça a commencé, mais même, enfin, je veux dire, sans partir aux États-Unis, si on regarde par exemple l'industrie textile. En Europe, ne serait-ce qu'en Angleterre, les conditions de travail dans lesquelles vivaient les gens étaient également désastreuses. C'est juste qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un peu semblant, parce que nous, on a eu des droits qui ont été mis en place, on a fait des avancées sur le droit du travail qui ont un peu obligé les industriels à se contrôler dans les abus qu'ils mettaient en place. Mais en fait, ils se sont contrôlés dans nos pays pour aller les exercer ailleurs. Et l'argument qu'ils ont aujourd'hui de dire « nous, on ne sait pas », en fait, j'ai envie de dire, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais c'est en fait justement le problème.
Oui, c'est ça, ils devraient savoir.
Exactement, ils devraient savoir. Mais aujourd'hui, c'est arrangeant de ne pas savoir, parce que ça permet de dire, nous, on sous-traite, et en fait, c'est aux sous-traitants de voir, selon leurs propres régulations au sein de leur pays, c'est à eux de faire en sorte que... Mais vu les conditions de production qu'on donne aussi aux usines textiles, où, par exemple, on met les usines en compétition les unes avec les autres pour produire toujours plus rapidement et toujours à bas coût, on ne peut pas s'attendre avec beaucoup de candeur à ce que les gens soient rémunérés à leur juste valeur, aient des pauses pour pouvoir déjeuner, que les femmes... partent en congé maternité comme chez nous et se dire oh, c'est quand même bizarre parce que bon nous on a fait confiance à notre sous-traitant. Bah non, vu les conditions aussi dans lesquelles on place les usines, ce n'est pas possible. Et moi je voulais juste revenir aussi sur un terme qu'on utilise depuis tout à l'heure qui est celui de fast fashion, avec lequel moi je suis toujours un peu en tension.
Ah, intéressant.
Parce que fast fashion, aujourd'hui on en parle pour parler d'un certain type de marque. Donc on va en parler pour H&M, on va en parler pour voilà, Chine, en ce moment tout le monde est en train de dire l'ultra fast fashion, nanana. Bon, la fast fashion, c'est la manière dont l'industrie de la mode fonctionne entièrement. À tous les niveaux. On peut parler des marques de luxe, elles sont dans la fast fashion. À partir du moment où une marque de luxe décide de faire 6 collections par an, qui a besoin aujourd'hui de vêtements issus de 6 collections différentes ? Personne. Donc, on est dans la fast fashion, on est dans l'idée de toujours produire plus, toujours proposer de nouveaux produits pour toujours s'enrichir. Et ça se fait au détriment d'individus. On parle très très peu du luxe quand on parle de la question de l'exploitation à l'étranger. Il y a eu pourtant énormément de papiers qui ont été faits sur des exploitations qui se passent à l'étranger, mais aussi en Europe. Je vous conseille de lire un papier qui a été fait par le New York Times sur l'exploitation des personnes originaires de Chine, notamment dans la région de Toscane à Prato, qui est une ville textile très très réputée pour ces questions-là, et où les gens...
On a le made in Italy, mais en fait on exploite...
Exactement, et la question de l'Italie notamment, parce que c'est une question voilà, dont on parle peu, mais l'Italie, le sud de l'Italie notamment, est très très connue pour aussi avoir des personnes issues de l'immigration qui travaillent dans des conditions totalement atroces, et nous on préfère aller regarder souvent ce qui se passe dans les autres pays pour voir dire « Ah, les pauvres petits Bangladais, les pauvres petits machins », ça se passe aussi chez nous, ça se passe en France, ça se passe dans plein de pays du Nord, si on parle du Canada, etc. Pendant un moment, dans les années 90-2000, on parlait, je pense, un peu plus de ce qu'on appelait, toutes ces usines illégales dans lesquelles on faisait produire des vêtements, je ne me rappelle plus, il y a un nom pour ça en anglais.
Les sweatshops,
voilà, on en parlait beaucoup plus dans les années
90-2000. Oui, c'est vrai, il y en avait même à Los Angeles.
Et aujourd'hui, on n'en parle plus, et on fait comme si c'est parce qu'elles avaient disparu, et elles étaient toutes parties s'installer au Bangladesh, parce que bon, c'était plus pratique là-bas. Je pense qu'on peut arrêter de se faire des petits films et réaliser que l'exploitation a lieu partout.
Je vous donne la parole tout de suite, Audrey Millet, mais Julia Fort, je voudrais vous demander, la sous-traitance, c'est quelque chose à laquelle on peut échapper quand on travaille dans le textile, la mode ?
Alors, échapper à la sous-traitance, ça veut dire avoir sa propre usine. Donc, il y a des gens qui arrivent, c'est des gens exemplaires. Enfin, en tout cas, c'est un autre boulot, quoi. Donc, en France, il y a 1083, par exemple. Il y a... attendez, je vais essayer d'en citer quelques-uns. Il y a Le Minor, en Bretagne, Saint-James, a aussi sa propre usine. C'est l'exception et ce n'est pas la règle. Moi, par exemple, je sous-traite, c'est-à-dire que je travaille avec des usines. Enfin, je leur passe commande de fringues et ils la produisent et je la vends. Donc, la sous-traitance, c'est la norme... effectivement, de l'industrie textile. Après, c'est pas la même chose. Enfin, je pense que Binge Audio aussi, vous devez sous-traiter des choses. Je suis sûre que c'est pas vous qui avez fait la peinture. Enfin, quoi que,
maintenant que je suis en train de regarder,
c'est probablement vous qui l'avez fait. Non, mais donc
c'est pas forcément mal en soi de faire appel à un prestataire. Mais du coup, comment on peut contrôler la chaîne?
C'est hyper dur. Enfin, moi, je vous dis ça parce que moi, donc, je produis essentiellement, enfin, ma marque, les vêtements sont essentiellement produits au Portugal et j'ai déjà eu affaire à des usines qui avaient sous-traité la commande que je leur avais passée à d'autres usines au Portugal. Donc ça, c'est quelque chose de classique. Et donc, quand ça arrive au Portugal, moi, ça m'a saoulé que ça soit fait dans une autre usine. Mais j'imagine que quand vous êtes au Bangladesh et vous allez visiter une usine qui est super clean et que vous vous rendez compte, en fait, que votre production a été faite dans un sweatshop, c'est extrêmement problématique. La manière d'empêcher ça, c'est que il y a quelque chose, enfin, c'est d'être proche des usines, quoi. Donc nous, il y a quand même quelque chose où maintenant on va régulièrement voir les usines, on va voir pendant les productions, etc. Donc c'est extrêmement facilité par le fait de produire proche. Mais effectivement, si vous produisez en Chine, sauf si vous êtes une designer qui adorait aller passer vos vacances en Chine, et en vrai, il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller passer une semaine tous les six mois dans le Xinjiang. vous saurez pas, en fait. Vous saurez pas.
C'est ça. Audrey Millet.
Alors moi, je travaille actuellement sur les sweatshops. Voilà. Donc sur Paris et sur Shanghai. Paris au 19e et Shanghai...
Ah, il y en a à Paris aussi, des sweatshops.
Ça, c'est la fête à neuneux. Alors, au 17e siècle, je reviens sur ce que disait Mélodie, on a deux pays, la France et l'Angleterre, qui décident de monter sur des bateaux et d'aller conquérir le monde. Ça s'appelle la colonisation. Il faut habiller les marins et les soldats. On ouvre les arrière-cours de Londres et de Paris. On met des femmes et on leur fait coudre des vêtements en série. Donc il n'y a pas de mécanisation, c'est en série, mais c'est ça le prêt-à-porter, c'est le XVIIe siècle. Ces vêtements-là, en période de paix, on n'habille plus trop de marins, de soldats, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va habiller les esclaves. Et là, on a créé, alors je cite les archives, les négro-closing. C'est hard quand même.
Oui.
Et puis bon, quand on avait habillé les esclaves, parce que pour eux, ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'habits, on s'est dit, bon, ben, on va rajouter du rose et des imprimés, et puis on va faire des vêtements à la mode. Et Prato, aujourd'hui, alors moi j'ai vécu à Prato, c'est vraiment le destin, 10 à 12% de la population est chinoise. Et j'en reviens de Prato. Et en réalité, alors on a les Chinois qui exploitent les Chinois, il n'y a aucun problème, ça se passe comme ça, on en a qui sont morts de faim. Il y a quelques années, des usines qui ont brûlé, 6 morts, on est en Italie. On est chez nous, là. Hein. On est en Italie. Et alors, il y a toute une hiérarchisation aussi de l'exploitation. C'est-à-dire que le Chinois va être plus payé que le Bangladais, que le Pakistanais. Et celui qui est tout en bas de la hiérarchie, c'est le Sénégalais. Donc, ce sont les nuances de la couleur de peau qui vont organiser la division du travail et la discrimination. Cette industrie du prêt-à-porter, du immédiat, là, et on va changer de plus en plus souvent, elle est basée sur l'exploitation et l'oppression. Mais Julia le disait, c'est très difficile de surveiller toute la chaîne. Et plus on est gros, plus c'est difficile. Plus il y a de volume, plus c'est difficile.
Et alors nous, les consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut acheter éthique ? Est-ce qu'il faut acheter du seconde main ? Quelles sont les armes à notre disposition pour quand même essayer de ne pas être complice ? Enfin, je ne sais pas si on peut considérer qu'on est complice, mais pas donner l'eau à le moulin de cette exploitation. Je vous vois réagir, Mélodie Thomas.
En fait,
vous croyez qu'on est complice ? Non, mais c'est vrai, la question est importante. Est-ce qu'on est complice de ça si j'achète des fringues chez Zara ?
Bah, oui, enfin moi, en fait aujourd'hui, je pense qu'on est dans une conversation. Il y a des conversations que personne n'a envie d'avoir aujourd'hui quand on parle de mode et quand on parle de l'exploitation. Personne n'a envie de d'être un acteur, enfin de se considérer comme un acteur du problème. Et par conséquent, aujourd'hui, moi, il y a plein de gens qui me disent « Non mais quand même, faut pas culpabiliser les gens, faut que tout le monde, tu vois, les gens n'ont pas le choix, tout le monde travaille, tout le monde... » D'accord ? Alors moi, je pars du principe que la culpabilité n'est pas... c'est pas le problème. Enfin, je veux dire, on peut se sentir coupable de plein de choses et c'est normal. En fait, les gens ne devraient pas se dire « Mais pourquoi je devrais me sentir coupable ?» En fait, on doit se sentir coupable parce qu'on sait que si les marques produisent, c'est parce que des gens achètent. À partir du moment où demain, si tout le monde se serrait la main autour du globe et décidait de ne plus acheter de vêtements pendant ne serait-ce que, je sais pas, une semaine, peut-être que les marques se diraient « Non mais attendez, il faut peut-être qu'on revoie considérablement notre manière de produire si les gens ne sont pas prêts à l'acheter. » Donc les marques produisent aussi parce qu'on achète.
C'est pas, elles, oui, et elles cette culpabilité, pas de produire pour le elle est aussi plaisir. Révélatrice du fait qu'on sait qu'on a un pouvoir quelque part quand même. On sait qu'on n'est pas complètement passif.
Alors, on sait qu'on a un pouvoir, ça pour le coup, je ne suis pas certain. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des sociétés où les gens se sentent totalement démunis face à ce qu'on appelle aujourd'hui la technocratie, donc face au pouvoir qu'ont les grands conglomérats, les grandes marques, etc. Et ils se disent, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Je pense que c'est la question que se posent plein de gens qui ont des bonnes intentions et ont envie de peut-être un peu moins participer déjà à ce type de système. Et là, je viens au deuxième pan de mon argument. C'est, alors oui, on doit tous se sentir coupable, responsable, etc. Au bout d'un moment, on vit dans des États démocratiques, on vote pour des individus. Et si aujourd'hui, il y a autant d'appels, autant de polémiques qui sont faites par des personnes qui prennent le temps d'aller sur les comptes Instagram de Shein, qui prennent le temps d'aller sur les comptes Instagram de Zara, de toutes les marques du groupe Inditex ou que sais-je encore, est-ce que quelqu'un dans un de nos gouvernements pourrait prendre un peu la question à bras-le-corps et vraiment la porter? Aujourd'hui, on est face à des gouvernements qui nous disent « Ah oui, c'est très très grave, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les marques organiser un petit conglomérat entre elles, comme ça. Elles vont se réunir et elles vont dire « bon ».
Et qui s'appelle Rio Fashion Pact.
Voilà, exactement. Et on va leur dire « qu'est-ce que vous avez envie de faire, finalement ?» Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, les États se déresponsabilisent totalement et laissent les marques un peu faire leur petit choix.
Il y a l'eurodéputé, pour quand même, pas pour lui envoyer des fleurs, mais Raphaël Glucksmann, qui s'est quand même beaucoup mobilisé sur la question des... J'ai l'impression que c'est la seule voix politique qui a vraiment pris cette question à bras-le-corps.
Il y a Saskia Bricmont aussi, Audrey en eurodéputé, Marie Toussaint. On a du mal. Non, mais...
Mais ça reste des eurodéputés. C'est vrai qu'il devrait y avoir des ministres du commerce qui sont...
L'Europe doit servir à ça. Ouais. Vraiment. Vraiment. D'ailleurs, mon projet sur les sweatshops est payé par l'Europe. Voilà. Donc, je dis, l'Europe sert à quelque
voilà,
chose.
Voilà, nos impôts.
Voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, je ne suis pas sûre. Mais l'Europe doit servir à ça. Il y a une loi en Californie qui oblige à indiquer sur les étiquettes ce produit contient... des phtalates, du plomb, qui sont considérés donc dans l'État de la Californie comme cancérigènes, mutagènes, toxiques. Je veux cette loi en Europe.
Julia Faure.
Ouais, moi, je voulais rebondir sur la nécessité de régulation. C'est effectivement le constat qu'on fait en mode climat dont vous parliez en introduction. C'est une coalition d'entreprises du textile, des industriels français et des marques, plutôt des marques éthiques, qui font le constat qu'en fait, l'exemplarité au niveau d'une marque n'a aucun impact sur le niveau global. Enfin, moi, je peux faire en sorte de produire au Portugal, utiliser du coton bio. Au global, l'impact de la mode sera toujours affreux si on laisse les Shein et les H&M se développer. Donc, en faisant le constat qu'il n'y a pas cette révolution du consommateur qu'on appelle de nos pour plein de raisons. Hein. Ça n'existe pas. Ça fait 30 ans qu'on attend ça. Ça n'existe pas. Ça n'a pas changé. Enfin, Nike est plus puissant aujourd'hui que jamais. Or, ils produisent toujours. Enfin, ils enchaînent scandale sur scandale, quoi. Donc, la révolution du consommateur ne fonctionne pas. L'émergence de marques éthiques ne change rien au problème. Je vous le dis. Hein.
Et ne palliera pas au problème.
Et ne palliera pas le problème, etc. La seule chose qu'il nous faut, effectivement, c'est un changement de régulation. Donc, en mode climat, cette coalition, elle a pour but d'utiliser le pouvoir d'influence des entreprises qui la compose, non pas pour servir nos intérêts économiques, comme servent généralement les lobbies, mais pour servir l'intérêt général, c'est-à-dire faire en sorte que l'industrie textile fasse sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il y a une chose hyper simple qu'il faut faire, c'est pénaliser les pratiques de la fast fashion. Les pratiques de la fast fashion, c'est aller produire dans les pays à bas coût, c'est aller produire en Asie, et c'est renouveler en permanence, c'est cette obsolescence programmée du désir, cette manière de renouveler en permanence les collections. Il y a des outils réglementaires qui permettent de faire ça. Enfin, on les a listés, on les a présentés au ministère de la Transition écologique. On porte ces revendications-là. Elles ne sont pas écoutées. Il y a des forces qui se mettent en mouvement pour essayer de demander cette régulation. Il n'y a pas de courage politique pour l'appliquer en face. Donc, enfin, je vous le dis parce que je suis en ce moment en négociation avec les ministères, etc. Il y a une pétition qui a été signée, qui a rassemblé plus de 40 000 signatures, qui demande...
Ah, on peut la signer? Les auditeurs, ils peuvent la signer?
Ouais, s'il vous plaît, allez sur change.org, ça s'appelle, désolé pour le titre, Barbara Pompili, empêcher l'Afrique de devenir la poubelle de nos vêtements. C'est une pétition qui a rassemblé plus de 40 000 signatures, c'est-à-dire plus de voix que Valérie Pécresse au premier tour de la Républicain. Le ministère de la Transition écologique n'a pas réagi à ça, quoi. Et bien sûr, c'est catastrophique. Alors, l'émergence de... Enfin, je dis pas l'émergence de la fast fashion, la fast fashion est en train de tout ratisser sur son passage. Enfin, il y a un truc, c'est la mainmise de la fast fashion. La mainmise de la fast fashion a bien sûr des conséquences dramatiques sur le réchauffement climatique, sur la pollution en Afrique, mais elle a aussi des conséquences dramatiques à l'échelle nationale. On perd nos emplois de l'industrie textile. Avec 2005, là, les accords multifibres qui sont sautés, c'est 300 000 emplois dans le textile qui disparaissent. Il va y avoir la même hécatombe sur le retail, sur les vendeuses et les vendeurs des magasins, parce que toutes les marques, elles sont en train de fermer leurs boutiques et de se concentrer sur le online, ce qui permet d'avoir des emplois délocalisables. Au lieu d'avoir des magasins en France, tu mets des entrepôts en Europe, dans les pays d'Europe de l'Est, qui sont moins regardants sur les droits sociaux. On est face à une hécatombe écologique, on va être face à une hécatombe d'emplois en France. Ça ne bénéficie à personne en France. Personne. Il n'y a aucune valeur qui reste en France. Les impôts ne sont pas payés en France. Il y a beaucoup de marques qui fraudent la TVA, etc. Enfin, c'est genre, laisser la fast fashion se développer, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais pour l'économie. Et pourtant, rien n'est fait pour la freiner. Donc voilà, nous, on met toutes nos forces pour essayer de faire passer des régulations qui empêchent ces pratiques désastreuses. Mais voilà, si vous pouvez nous donner de la force en signant la pétition, ça serait génial.
Nous, en tant que personne lambda, est-ce que acheter en seconde main, ça peut aider? Est-ce que c'est une bonne chose d'acheter sur Vinted?
Moi, c'est... Désolée, je suis le parti pooper des solutions faciles pour tout le monde. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui nous proposent d'acheter de la seconde main comme on achète de la fast fashion. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de marques, enfin, en tout cas, de plateformes qui se mettent sur ce créneau. Je cite pas de marques. Enfin, j'aime pas citer des plateformes parce qu'au final, c'est tout. Enfin, tout le monde fait plus ou moins la même chose. Mais je vois que Julia a des noms en tête. non, en fait, moi, le problème que j'ai, bien sûr que la seconde main, c'est une alternative intéressante. Mais à la base, l'idée de seconde main, enfin moi, ce que j'ai aimé à partir du moment où j'ai commencé à acheter de la seconde main, c'est l'idée de pouvoir acheter des pièces pas trop chères et de très bonnes factures. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Un, il y a des gens qui donc achètent de la seconde main comme on achète de la fast fashion parce que c'est moins cher et c'est super. Et donc, en fait, ça fait monter les prix. Et ça a aussi, ce qui est aussi un problème pour les personnes qui sont en situation précaire et n'ont pas forcément les moyens de se dire « Ouais, super, je vais pouvoir mettre 70 euros dans un jean Levi's 501 parce que c'est la mode de l'acheter vintage. » Et puis, le deuxième problème que ça pose aussi, à mon sens, je vais essayer de retrouver maintenant ce que j'étais en train de dire, je me suis perdue dans ma pensée.
Je peux continuer.
Allez-y, Julia Fort.
Non, mais du coup, si on doit résumer, le problème principal de la mode, c'est qu'on produit et qu'on consomme trop de vêtements. La consommation de vêtements par Français, elle a doublé depuis les années 80. Il faut qu'on consomme moins de vêtements. Et consommer 50 fringues par an, qu'elles viennent de Vinted ou qu'elles viennent du marché du neuf, c'est la même chose. Parce que si le robinet du neuf n'était pas grand ouvert, on ne trouverait pas tout ce qu'on trouve actuellement sur Vinted.
Et c'est là où je rebondis. Merci Julia. Waouh.
C'était beau. Un talk show ensemble.
Ouais, exactement. Non, c'est là où je rebondis. En fait, il y a une chose dont on discute très très peu quand on parle de la qualité de vêtements qu'on trouvait avant dans les magasins vintage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on commence à retrouver des fringues de marques de fast fashion dans
les
vintage.
Oui, on peut acheter du H&M dans les trucs dans les
exactement.
Pas, épicerie vintage dans les magasins vintage.
Exactement. Ouais. Donc moi aujourd'hui, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par seconde main, qu'est-ce qu'on entend par vintage. Moi, ce que j'aime bien dans la du vintage, c'est qu'il y a vraiment cette idée de vêtements situés entre les années, je crois, années 30 et années 90, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête à partir des années 90 Parce qu'ensuite, on a laissé ouvertes les vannes du n'importe quoi et qu'on se retrouve avec des vêtements de très très mauvaise qualité qui, de toute façon, ne tiendront pas la décennie. Elles ne vont pas durer 40, 50, 60 ans, 70 ans, au point qu'on puisse avoir des enfants qui les portent. Donc, pour moi, quand on nous dit, ouais, c'est c'est super, j'ai pu revendre ma sap Shein sur Vinted. Je suis très contente que les gens arrivent à se débarrasser comme ça un peu de leur placard. Est-ce que ça change la question de la pollution textile? Non. Est-ce que ça change la question de l'hyperproduction du vêtement? Non plus.
Non plus.
Donc, c'est une solution, enfin, c'est présenté en tout cas comme une solution qui n'en est, à mon sens, absolument pas une.
La seule solution, finalement, c'est d'acheter moins, c'est ça?
Ça, personne ne veut le dire.
Exactement. Alors... acheter beaucoup moins. User ses vêtements jusqu'à la corde. Les réparer. Accepter qu'il puisse y avoir une tache sur votre pull et que vos baskets ne sont pas d'un blanc immaculé, quoi. Et donc, voilà, achetez moins. Et si vraiment vous devez acheter, plutôt, effectivement, la seconde main. Et si vous voulez acheter du neuf, deux critères. Made in Europe et coton bio.
Et oui, et surtout la qualité. Moi, aujourd'hui, j'ai des conversations avec des potes qui me disent, j'ai acheté un pull, je ne comprends pas, j'ai froid. Regardez les matières de vos vêtements. T'as un pull qui est fait à partir de fils de pétrole. Ouais, t'as froid.
Alors, donnez-nous des astuces. Un bon pull chaud, faut qu'il soit en quoi? Moi, j'y connais pas. Hein. Vous,
en matière naturelle.
Ça a l'air d'être facile pour vous, mais dites pour les ignares, on ne sait pas.
Matière de la laine.
Alors, pour avoir chaud, faut de la laine.
Ouais.
C'est ça?
La laine, du cachemire. Enfin, acheter des matières naturelles qui sont faites, enfin, qui sont connues.
Le cachemire,
pour leur...
ça coûte une fortune aussi.
Alors... si on l'achète en seconde main. Pour le coup, si vous faites attention à acheter des pulls en cachemire de seconde main, eh bien, vous pourrez les avoir à moins cher parfois qu'un pull de très mauvaise facture que vous allez acheter neuf dans un magasin à l'heure actuelle.
Parce qu'aujourd'hui, mettre le prix, en plus, ça garantit pas. Moi, j'ai parfois investi dans des vêtements Sandro, Maje. En fait, c'est la même... tu les laves et c'est comme les fringues Zara, elles sont foutues.
Ouais. C'est clair. Ouais. Non, bah, y a quand même un truc qu'il faut avoir en tête. C'est Thomas Hurriès qui disait ça. Il disait entre Levi's et H&M, finalement, je trouve que H&M, c'est plus honnête parce qu'ils produisent dans les mêmes jeans, sauf qu'il y en a un qui fait beaucoup plus d'argent parce qu'il te vend les mêmes jeans 100€ alors que l'autre te le fait à 15€.
Alors, donnez-nous des astuces. Donc, pour avoir chaud, de la laine, du cachemire, vous aviez cité quelques marques
tout à l'heure.
Le lin. Vous aviez cité, Julia Fort, quelques marques qui ont leur usine et qui produisent éthiquement. C'était 1083,
Saint-James,
le Minor.
Le Minor, oui, c'est tout. C'est tous les fringues de marins, tous les bretons là qui sont...
ah, c'est beau en plus.
Qui tricotent leur pull marin, etc. Et sinon, sur le site d'Enmode Climat, la plupart de nos... Enfin, je dirais la totalité de nos adhérents, c'est un peu le drame, sont des marques qui produisent bien, quoi. On aurait espéré que des marques moins vertueuses qui nous rejoignent pour au moins mettre leur poids dans le changement régulationnaire, mais pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. Et sinon, vous pouvez aller sur le site WeDressFair.
WeDressFair.
Ils rassemblent pas mal de marques. Ils font eux-mêmes le travail de vérifier si elles sont bien ou pas. Mais globalement, regardez l'étiquette et Made in Europe, quoi.
Et pour il nous reste quelques minutes, mais moi, j'ai le sentiment quand même que l'achat d'un vêtement, c'est quand même souvent un achat réconfortant, plaisir, un peu confiance en soi. Enfin, quels conseils vous donneriez pour se consoler des aléas de la vie ou de la difficulté de la vie sans forcément consommer?
Garder sa main dans la poche.
Pardon, excusez-moi, Audrey, vous avez peut-être une
meilleure. Non, mais alors, on va le faire comme ça. Garder la main droite dans la poche et puis, pour Julia, l'alcool dans la main gauche. Non, mais on réinjecte de l'amour.
Donc, ça veut dire laver son pull en cachemire.
On lave à la main. Ouais. Ensuite, on va l'étendre sur une serviette de bain. Ouais. Comme ça, il n'y a pas tout le poids qui va tomber. On remet de l'amour. Et vu le prix, on l'aime vraiment beaucoup.
Mélodie Thomas.
Eh ben, je voulais justement revenir sur ça également parce qu'aujourd'hui, on a tous eu ce moment où on ne se sent pas bien et on va dans un magasin.
Oui, ça, un boost de confiance.
Et on achète quelque chose et on se sent mieux. Sur le coup. Puis on rentre chez soi, on essaye ce qu'on a acheté et on se déteste.
Oui, c'est vrai.
On se déteste parce que finalement, on n'aime pas vraiment ce qu'on a acheté. On commence à envoyer des photos aux copines en disant « Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je le ramène? Est-ce que je le ramène pas ?» etc. Et en fait, on doute tellement. On finit par le ramener et on est mal parce qu'on l'a ramené. Puis limite, on se dit « Ah, peut-être que celui-ci que j'avais pas vu, peut-être qu'il est bien aussi. » En fait, mon conseil, c'est comme de la même manière où on fait pas les courses quand on a faim, on va pas acheter de vêtements quand on se sent mal. Moi, je me rends compte que les vêtements que j'ai le plus aimés, c'est les vêtements où j'avais un bon mood et je suis entrée dans une boutique que j'aime bien et je me suis dit tiens, ça j'aime bien, j'aime vraiment bien. Et on fait le tour et on regarde bien et on se dit non mais en fait c'est vraiment ça mon coup de cœur et je le prends et je le ramène chez moi.
Et vous, Mélodie Thomas, les marques que vous recommanderiez, enfin les astuces concrètes?
Alors moi je fais du full disclosure. Hein. Moi j'ai la chance de faire un métier qui est journaliste mode, ce qui veut dire que moi on m'envoie déjà énormément de choses.
Oh là là.
J'ai donc pas besoin d'acheter beaucoup.
Le rêve.
J'achète sinon beaucoup en vintage parce que moi j'aime bien et que voilà, c'est chacun son style vestimentaire, donc je fais beaucoup,
beaucoup de vintage.
Comme ça.
Mais même si vous achetez pas ces marques, est-ce qu'il y en a certaines que vous recommanderiez?
Moi je suis très très nulle en ça.
Bon, bah, c'est pas grave.
Je sais pas trop faire. Mais non, pour être totalement honnête, je fais très très rarement du shopping. Et en plus de ça, même si je sais que j'ai fait ma petite vendetta contre les gens qui ne veulent pas se sentir coupables, etc., je fais aussi partie des gens qui malheureusement doivent continuer à acheter de la fast fashion parce que ça reste toujours plus abordable. Parce que moi, c'est un peu l'argument. J'avais fait un papier sur ça il y a quelques années où je disais malheureusement pour la majorité des gens, la question du vêtement éco-responsable, ça reste un problème de riche.
Bien sûr.
Parce que quand on a des enfants à nourrir.
Quelqu'un qui a, enfin, si par exemple, j'ai pas beaucoup de sous, après, quelqu'un qui a un entretien d'embauche, il va être obligé de s'acheter un truc un peu chic, pas
oui,
très cher.
Et puis,
bah, du coup, tu veux chez Zara, chez
H&M. Même quand tu regardes aujourd'hui, enfin, on a quand même eu 5 ans de gilets jaunes, de gens qui disent qu'ils peuvent pas manger à leur faim, qu'ils peuvent pas acheter des cendres pour conduire leur voiture et aller chercher leurs enfants à l'école.
Oui, alors donc, si on leur dit, va acheter du cachemire, enfin.
C'est ça. Donc ouais, quand on a tout ce discours de, mais c'est quand même mieux de mettre 300€ dans un bon pull en laine, et puis, comment on fait quand on a 5 enfants, quand on a juste un petit salaire sur lequel vivre, quand on démarre dans la vie et qu'on peut pas. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle on revient à ce que disait Julia, la régulation des entreprises.
Ouais, ouais. Et
augmenter les salaires.
Non, mais il y a quand même un aussi. Truc. Non, attends. En fait, c'est assez paradoxal parce que tous les gens qui ont ce discours-là, hein, de démocratiser la mode, de rendre ça accessible, c'est les low-costers. Enfin, c'est vraiment, c'est Leclerc avec sa baguette à 29 centimes, c'est H&M, moi, j'ai rencontré le responsable de développement durable d'H&M qui sont là, mais nous, en fait, nous, on est démocratique et vous êtes un truc qui a habillé les bourgeois, etc. Et attends, comment on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'on a une population qui est paupérisée en France? C'est entre autres parce qu'on a, perdu notre industrie, on a perdu nos emplois, on a laissé quelque chose se paupériser. Et du coup, il y a un espèce de truc où genre, c'est les mecs qui sont les propres... Enfin, Amazon, ils vont vous dire, nous, on rend ça accessible, on rend la consommation accessible et tout. Les mêmes personnes qui ont fossoyé, en fait, finalement, l'emploi en France, etc., et qui participent, en fait, à la paupérisation de la population française,
ah oui,
sont les mêmes
après,
qui viennent ensuite en chevalier blanc en disant, mais nous, on est là. Attends, quand Leclerc vend sa baguette à 29 centimes, qui c'est que ça ruine? Ça ruine les boulangers, ça ruine les agriculteurs français, ça ruine les céréaliers, ça ruine les moulins, etc. Enfin, c'est... Oui, alors certes. Et le pire, c'est qu'ils prennent comme bouclier les populations qui, effectivement, n'ont pas le choix. Et qui, effectivement, vont être obligés d'acheter cette... Enfin, pour eux, ça fait c'est une question de survie, en fait, d'acheter ces trucs-là. Donc, il y a un vrai truc pourri dans le royaume du Danemark avec ce truc-là. Donc, il faut faire... À chaque fois qu'il y a une marque qui vous dit « Nous, on se bat pour rendre les choses accessibles », c'est-à-dire qu'elle exploite quelqu'un à l'autre bout de la chaîne et qu'elle détruit quelque chose en France. Et c'est Uber avec les taxis, c'est Airbnb avec les hôtels, c'est les supermarchés avec les épiceries il y a 20 ans, etc. etc. quoi.
Pour se quitter sur une note peut-être un peu d'espoir, on constate quand même ces dernières années que les pubs de mode dans le métro ou ailleurs mettent maintenant en scène des mannequins de tout type de morphologie ou des corps racisés. Est-ce que la mode peut aussi être un vecteur de changement de la société?
Alors,
Mélodie Thomas.
Au début de la phrase, j'étais genre. Bon, maintenant, est-ce que la mode peut être un vecteur d'empowerment et de changement dans la société? Oui, bien sûr, si la mode décide de se réguler,
de réguler,
etc.
Mais par exemple, ces pubs, moi, je trouve qu'elles sont. Enfin, ça me soulage, moi, de les voir, par exemple. Non, pas vous.
Non, mais comment dire? Moi, j'ai le problème que je vais avoir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette idée de satisfaction immédiate et on utilise beaucoup les mannequins en ce sens, c'est-à-dire qu'on se dit ah. Regardez, maintenant on a des mannequins noirs,
oui,
des
voilà.
mannequins asiatiques.
On a 200 000 esclaves là-bas, mais regardez, on a un mannequin noir.
Déjà, ça veut dire que on est dans face à une industrie qui découpe. Segmente les valeurs qu'elle porte. On va dire, on soutient les femmes, mais on n'inclut pas les travailleuses textiles. On va dire, on est pour la diversité parce qu'on a mis des mannequins noirs, etc. Mais on ne va certainement pas les embaucher dans nos entreprises. Et on va continuer à exploiter des femmes à l'autre bout du monde qui sont des femmes racisées, donc issues de pays du sud global. On va protéger l'environnement. Mais quand on parle d'environnement, on ne parle absolument pas des catastrophes qui sont créées localement dans dans des, auprès de personnes qui vont ne pas pouvoir boire leur eau potable, être victimes de cancer et de maladies de la peau, etc., de stérilité, etc., etc., etc. Donc pour moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à juste vanter cette apparition, parce qu'en fait, ça sert toujours un discours, ou en tout cas une forme de représentation qui est la représentation du Nord global, qui se donne un peu bonne conscience par rapport à des populations qui ont toujours été mises au banc de la société. Maintenant, là où ce qu'il faut différencier, c'est ce que la mode peut faire à un niveau peut-être global, et ce qu'elle peut faire à titre individuel. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les questions de représentation, à titre individuel, c'est que ça va pouvoir permettre à des personnes qui vont être racisées, issues de la communauté LGBT, des personnes handicapées, etc., qu'on accepte leur existence dans l'espace social. Donc, à titre individuel, oui, je suis totalement je suis totalement contente de voir ce type de représentation exister.
Audrey Millet,
voilà.
Eh bien, moi, j'aimerais que le mannequin noir soit payé autant que le mannequin blanc.
Ah, parce que oui, il y a aussi des histoires de variations de salaire dans le mannequinat.
C'est ça,
oui, c'est vrai
c'est
que
ça,
c'est opaque, les salaires dans le mannequinat.
Oui, oui,
c'est
mais
négocié d'agent à... Enfin, c'est chacun un salaire à la tête du client, quoi.
Voilà, et à la nuance de la couleur de peau, toujours ce...
Après, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé à ce niveau-là, et surtout ça dépend, parce que quand on parle de mannequinat, on parle quand même encore d'une industrie, donc c'est pas non plus y a pas d'uniformité non plus, ça va dépendre aujourd'hui de beaucoup de choses, ça va dépendre du succès du mannequin, parce que par exemple...
Oui, il a une cote, c'est comme un joueur de foot.
Ah bah totalement, si on prend des mannequins aujourd'hui, par exemple des mannequins noirs comme Naomi Campbell, comme Adou Takesh, comme Anoki Ai, je pense pas qu'elles aient à se plaindre des salaires qu'elles gagnent par rapport à certaines de leurs homologues blanches ou en tout cas qui ne sont pas racisées, parce qu'elles arrivent à générer de l'argent, à faire du profit, à gagner, à valoriser leur contrat.
Mais elles sont trop peu nombreuses.
Aujourd'hui, voilà. Sur la question des mannequins, aujourd'hui, je resterai quand même très modérée parce qu'on a véritablement vu un changement. Après, de la manière dont ça peut s'affirmer dans les différentes campagnes, dans les différentes saisons, on va dire, de mode, c'est différent. Ça a étudié, je pense, saison par saison, de voir les montées et les descentes de taux de personnes racisées ou LGBTQ ou autres dans les castings. Mais je mettrais quand même un bémol sur ça, parce qu'il y a, pour le coup, s'il y a un truc sur lequel on peut pas trop taper sur la mode, c'est qu'il y a eu un véritable effort qui a été fait sur les questions de représentation sur les podiums.
Eh ben, je suis navrée, non, je vois que vous avez envie de réagir, Audrey Millet, mais je ne vais pas pouvoir vous donner ce plaisir.
On ne peut plus rien dire.
Merci beaucoup, c'était passionnant, c'était un vrai plaisir de parler avec vous. Merci donc à nos invités, je rappelle Audrey Millet, Julia Faure et Mélodie Thomas. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex, merci à notre réalisatrice Elisa Grenet. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve mardi prochain pour votre petite tête-à-tête avec l'une de nos chroniqueuses. Et on se retrouve aussi vendredi prochain pour un nouveau débat. Et d'ici là, mes chers amis, eh bien, promenez-vous tout nu. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Et nous, on adore.
Rien.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues.
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.